C'est l'heure de l'instant M, l'instant média avec Sonia De Villers et le médiateur. Vous vous tenez Sonia aujourd'hui.
Je me tiens, mais alors parfaitement bien, parce que je suis méga sous contrôle aujourd'hui. Bah ouais. Bon week-end Augustin. Hein.
Attention.
À lundi.
Salut.
Ciao.
Le clivage, c'est bon, tout le monde oui, filme tout. En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Wow.
9h40, dernier instant M de la semaine.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Croix, une presse indépendante.
Information numérique.
Et pour la première fois dans l'émission, le médiateur des antennes de Radio France, Bruno Denaz, bonjour.
Bonjour Sonia.
Il a les yeux rivés sur vos coups de gueule et sur vos coups de cœur. Cette semaine, la question des migrants vous a fait beaucoup réagir. Bruno Denaz soumet à vos questions. Jean-Marc Four, directeur de la rédaction de France Inter, et Nicolas Demorand, qui pilote le 18-20. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Sonia.
Juste avant cela, détour par le tabloïd le plus lu d'Allemagne et même le plus lu d'Europe, le Bild, réputé réac et racoleur. Il publie un supplément en arabe à destination des migrants. On vous explique. Sinon, c'est vendredi. Et le vendredi, nous, on joue et on écoute Philippe Mandel.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Alors dans l'actu média du jour, on retiendra quand même que les trois premiers news magazines ont vu leur vente en kiosque chuter de 15 à 20% depuis le début de l'année. C'est le Figaro qui fait le calcul. Nous, on a été voir les derniers chiffres publiés à l'OJD, c'est l'organisme de référence. Alors en juin, l'Obs vendait 35 000 exemplaires en kiosque, 40 000 pour l'Express, 58 000 pour le Point. À cela, évidemment, il faut ajouter les abonnements. L'Obs est toujours leader à 400 000 exemplaires, mais le kiosque, c'est le pouls du marché. C'est le moment où vous vous déplacez pour lire un journal. C'est la force de sa une. 35 000 exemplaires, c'est tout simplement alarmant. Alors les grandes voix du vendredi sont de retour cette saison dans l'instant M, vous le savez et vous les avez plébiscitées. Une voix mystère, dès que son nom vous revient en tête, vous vous précipitez sur votre mail, l'instant M tout attaché à radiofrance.com, je répète, l'instant M à radiofrance.com, et vous gagnez une série documentaire sur l'histoire de la mode, cette semaine rééditée par Lina, ça commence dans les années 80 et c'est super bien, vous êtes prêts? C'est parti.
Je me suis dit que ça allait être facile d'interviewer Jean-Marc Morandini. Il y avait pas mal de choses à lui reprocher, entre guillemets. En fait, j'avais pas suffisamment bossé et c'était très mauvais. Il s'en est vachement bien sorti.
L'instant M à radiofrance.com. Bonne chance à vous tous. Et là, j'ai mes grandes voix à moi, mes barytons de France Inter qui sont en train de dire oh, « c'est facile,
facile. »
C'est pas moi qui ai invité Nicolas Demorand dans mon émission, ça je le ferai jamais, oh ça non, c'est le médiateur qui l'a fait venir. Mais puisque je vous ai sous la main, Nicolas, est-ce que vous, il y a une voix de radio, de télé, une voix qui vous a marqué quand vous étiez tout minot ou même plus tard, jeune journaliste?
Ça me revient pas là, je suis désolé, pas pour l'instant.
C'est pas grave, allez vous recoucher Nicolas.
Oui, je vais y aller.
C'est déjà...
Je suis en plein jet lag là.
Si rare de vous avoir à 9h40.
Oui, ça je vous le confirme. Oui.
Alors ça va nous tomber sur la tête un jour ou l'autre avec vous Bruno Denaz, c'est sûr, médiateur des antennes qui viendrait de temps en temps dans l'instant M. Évidemment, vous tous, vous nous écoutez, vous ne nous pardonnez pas nos fautes de français, donc un jour ou l'autre ça va nous rattraper. Philippe Vandel, vous prenez les devants.
Oui, parce que moi je suis ravi d'être en compagnie du médiateur des antennes qui nous rappelle, grâce à vous, auditeurs, d'utiliser le mot juste parce que parfois franchement c'est trop. Ça m'avait frappé en écoutant Gilles Verdez, chroniqueur à Touche pas à mon poste, expliquer son rôle chez nos confrères d'Europe 1.
Quand je m'énerve trop, finalement ça me dessert, donc maintenant j'apprends à me calmer.
Eh oui, il s'énerve trop. Alors pardonnez-moi d'être un peu personnel, il se trouve que j'aime bien écouter de la musique fort, mais pas quand c'est trop fort. J'adore la cuisine relevée, mais pas quand c'est trop pimenté. Et je suis sûr que c'est pareil pour beaucoup de gens, c'est normal. Parce que c'est exactement comme si je ne vous avais rien dit, je m'explique. Ces deux phrases ont quelque chose en commun, en l'occurrence l'adverbe « trop » qui indique la désapprobation. Il est prévisible que je n'aime pas la nourriture trop pimentée, et pareil pour vous, même si vous aimez le piment. Puisque c'est justement au moment où la quantité de piment dépasse une certaine limite, celle de votre plaisir, que vous qualifiez la tambouille de trop pimentée. Et avant d'arriver à cette dose, vous dites simplement qu'elle est ou un peu ou parfaitement pimenté. Le pléonasme fonctionne exactement dans les deux sens. Je suis sûr que vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les restos trop bruyants. Mais inversement, vous n'aimez pas les restos trop silencieux. Donc dire qu'on n'aime pas les pulls trop courts, revient à parler pour ne rien dire. Un soir à la Tour Eiffel, sur France 2, Michel Larocque avait prévenu.
Alors, faut pas mettre trop de savon.
Voilà, Michel.
Parce que ça agresse la peau.
Et non, Mimi, faut pas mettre trop de savon. Écoutez le secrétaire d'État au commerce extérieur, Mathias Fekl, qui se désole. C'est la faute à la société.
La société française aujourd'hui, elle est trop figée.
Eh ben oui, elle est trop figée, madame. T'as déjà vu des sociétés pas assez figées? Bon, il est en direct, on lui pardonne, mais même, on peut dire que ça arrive même au meilleur. Écoutez ce documentaire d'Arte consacré au chocolat.
Sans compter qu'un excès de fruits peut être extrêmement dangereux.
Vous l'avez? On retrouve ça dans l'avertissement solennel qui suit les publicités de la Française des Jeux ou du PMU.
Jouer avec excès comporte des risques.
Eh bien évidemment, nounouille, qu'il y a des risques, puisqu'on joue avec excès. Si on joue modérément ou un peu, ou une toute petite somme, il n'y a aucun risque. C'est quand on force les doses qu'il peut y avoir des excès, donc c'est comme s'il n'avait rien dit. Moralité.
Non mais vous...
Trop pas. Ah, ça vous a scié celle-là.
Oui, ça m'a scié, ça m'a ramené 15 ans en arrière, non, c'est ça?
Voilà, exactement.
Philippe Vandel qui a sorti son t-shirt Iron Maiden, il date de quand celui-là?
Pour tout vous dire, je l'ai reçu hier, je l'ai mis aujourd'hui.
Je me suis dit,
personne va oser me faire la remarque.
Il est vraiment trop. Et Bruno Denas qui sourit parce que des remarques sur les trop et sur les fautes de français, et sur les écarts, il y en a beaucoup.
Ah, il y en a beaucoup, ça on peut le dire, il y en a beaucoup. Parfois c'est un peu exagéré quand même, mais parfois c'est quand même très très judicieux.
Trop exagéré, donc on se garde pour la prochaine fois. Allez, on continue dans l'actu du jour.
Lâchez vos écrans, vous êtes sur France Inter.
Alors hier à Berlin, le Bild publiait un vade-mecum en arabe bourré de conseils pratiques et de cartes à destination des migrants. L'attitude des Allemands sur cette question, vous le savez, a fait couler beaucoup d'encre en France, a suscité beaucoup de débats et d'interrogations. Mais comment expliquer la prise de position du Bild, qui est le journal le plus lu d'Europe, mais qui est avant tout un tabloïd populiste avec des unes tabageuses? Vu de ce côté-ci du Rhin, c'est assez difficile à comprendre. On a posé la question à Olivier Guèze. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, vous lisez et vous écrivez dans la presse allemande. Ça vous a surpris, vous, cette prise de position du Bild?
Au départ, ça m'a un peu surpris parce que, par exemple, le Bild avait été très très conservateur sur la crise grecque, par exemple, quasiment tous les jours, pendant des mois et des mois, ils estimaient que la Grèce devait sortir de l'euro, qu'en gros l'Allemagne devait se débarrasser de la Grèce. Et puis là, tout d'un coup, donc, on les accusait vraiment d'être très, très peu généreux. Et puis tout d'un coup, avec les migrants, on les découvre complètement à l'opposé. Donc, c'était assez surprenant. Et puis finalement, à bien y réfléchir, quand on connaît un peu l'histoire de Bild et quand on connaît un peu l'histoire du groupe Springer, c'est
alors,
pas
voilà.
Étonnant que ça, en fait. Parce que le groupe Springer, finalement, reflète un peu l'idée que les Allemands aimeraient se faire d'eux-mêmes.
C'est-à-dire
que, par exemple, pour les Grecs, si on compare, je trouve ça c'est intéressant de comparer et les Grecs et les migrants, là, puisque ça succède à quelques semaines d'intervalle. Pour les Grecs, les Allemands estiment que les Grecs sont totalement irresponsables et qu'en gros, finalement, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et c'est à eux de redresser leur propre économie comme les Allemands l'ont fait, comme d'autres pays l'ont fait en Europe. Par contre, pour les migrants, en fait, c'est la mission historique de l'Allemagne, d'une certaine manière. Que l'Allemagne a un rôle historique à remplir, que c'est cette Allemagne-là. Derrière, il n'y a pas que de la générosité, d'ailleurs. Hein, l'économie allemande a besoin de main-d'œuvre. Ça, voilà, on en a déjà parlé dans d'autres antennes. Mais je crois que finalement, voilà, Bild reflète un petit peu cette idée. C'est là un peu la mission de l'Allemagne. Par exemple, Bild Zeitung, le groupe Springer, dans les années 60, en 67, au moment de la guerre des six jours, avait pris position pour Israël, par exemple. Et je trouve qu'il y a un peu une idée... Ça reflète un peu cette idée-là, c'est-à-dire que lorsque l'Allemagne a une mission historique, ou lorsque l'Allemagne doit se rattraper, ou lorsque l'Allemagne doit redorer son image, Bild appuie en fait l'action du gouvernement, par exemple. Et je pense qu'on retrouve un peu cette idée-là dans le traitement de l'information des migrants, ou ces éditions en langue arabe, par exemple.
Alors, le Bild est particulièrement puissant dans les régions de Hambourg et de Berlin, beaucoup moins peut-être au sud de l'Allemagne. Hein. Le Bild, c'est toujours quand même plus de 2 millions d'exemplaires, avec un lectorat peut-être encore en majorité masculin, mais pour qu'on comprenne, Springer édite aussi Die Welt, qui est un des grands quotidiens de référence en Allemagne, et le groupe Springer est suffisamment puissant hein, pour être le seul, par exemple, en Europe, à s'être engagé dans un bras de fer avec Google. Donc, de la part de Springer, c'est une prise de position qui témoigne aussi de son leadership et de sa puissance.
Ah, complètement. Le groupe Springer, c'est une machine de guerre avec très peu d'équivalent sur un marché national. Lorsque le groupe Springer se met à soutenir une cause ou se met à descendre une cause, comme par exemple encore une fois la Grèce, c'est toute l'Allemagne en fait qui l'entraîne derrière lui. En tout cas, on se positionne par rapport à la prise de position du groupe Springer. Et donc par rapport aux migrants, c'est quand même très très fort. Ça reflète un peu à la fois qui se passe en Allemagne, Et deux, et je crois que c'est très important, l'idée que se font les Allemands d'eux-mêmes aujourd'hui, la majorité d'entre eux, par rapport à cette crise des migrants.
Merci comment beaucoup, merci beaucoup Olivier Guez d'avoir été parmi nous ce matin. Et je rappelle que le Bild a publié mardi une une avec un trou. Pas de photos, simplement pour faire comprendre au grand public ce que c'est que le poids et la force d'une image, une avec un trou qui faisait suite évidemment au choc planétaire qu'a provoqué la publication de la photo de ce petit enfant, Elan Kurdi, retrouvé mort sur une plage de Turquie. Merci Olivier Guez.
Merci Sonia, à bientôt.
Alors on continue dans cette actualité, hein, Bruno Donnas, qui a dominé toute la semaine en France et partout ailleurs en Europe, qui a été beaucoup suivi et développé sur les antennes de France Inter, qui a fait beaucoup réagir nos auditeurs. Vous avez convié à cette table donc Jean-Marc Four, qui est le directeur de la rédaction de France Inter, Nicolas Demorand, qui pilote le 18-20. Dans le 18-20, il y a un jour dans le monde, ouvert sur l'actualité internationale, et il y a aujourd'hui le téléphone sonne avec cette édition spéciale de lundi dernier. 3 heures d'antenne. Bruno Donnas.
Alors ça a super bien marché visiblement, je crois 1500 appels, c'est
oui,
ça ? Des invités
oui.
très divers. Alors Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Et on peut le dire, globalement, les auditeurs ont apprécié. Par exemple, Régine dit merci Nicolas Demorand, émission très équilibrée pour Thierry, beau travail, merci. Il y en a encore évidemment du travail pour faire mieux pour ces réfugiés. Marie-Alice a également apprécié, plus particulièrement Michel Fouché, géographe, diplomate, pour avoir rappelé quelques brins d'histoire de l'immigration en France. Alors justement, Nicolas Demorand, expliquez peut-être aux auditeurs comment se prépare une émission comme celle-ci.
Alors, elle s'est préparée dans l'urgence autour d'un premier désir qui était d'organiser le débat et de permettre aux auditeurs de s'en saisir et de réfléchir ensemble. Ça, c'était le premier point. Mais dans une très grande urgence. Donc, toute l'équipe de l'émission a commencé à essayer de réunir un plateau d'invités. Sur 3 heures, il y avait beaucoup de monde. Je dois dire qu'il n'y a eu quasiment aucun homme politique, ni de gauche, ni de droite. On a juste eu le député Solaire, Les Républicains, et Michel Rocard, ancien Premier ministre. Je ne sais pas pourquoi, ni la gauche ni la droite n'a voulu s'exprimer dans cette émission. Bon, donc ça a été assez difficile de sur ce plan-là. Pour le reste des invités, intellectuels, experts, spécialistes des migrations, c'était plus simple. Donc c'est un travail très très difficile, très rapide, et où on tente d'équilibrer les différentes prises de position qu'il peut y avoir sur un dossier pareil.
Alors justement sur les invités, il y a Daniel qui nous écrit « Bonne émission, mais que de poncif et journalistiquement correct. Et pourquoi encore Rocard, le visionnaire qui a toujours été dépassé par les événements, il conclut, Minc et Attali étaient indisponibles lundi ?»
Oui, j'ai eu des mails comme ça, effectivement, sur les invités. On m'a reproché de ne pas avoir invité l'un, de ne pas avoir invité l'autre. On a eu des refus, hein, beaucoup de refus de gens qui ne voulaient pas venir débattre. Il n'y a pas que les hommes et les femmes politiques. Dans d'autres émissions de France Inter où la question des migrants a été abordée, il y a eu des refus, des gens qui se sont décommandés au dernier moment.
Ils donnaient des raisons précises
Je crois que, on va dire, l'absence de courage ou,
Est-ce que vous pensez le
fait de pas prendre
Nicolas
de coups.
Nicolas Demorand, que le fait d'être exposé en direct aux questions des auditeurs, c'est un frein supplémentaire.
Je pense que ça fait peur à certains.
C'est
effectivement,
plus dur.
Et c'est plus dur. Et puis les auditeurs étaient parfois très très durs dans leur questionnement, parce que moi je l'ai dit dès le départ et je l'ai répété sans cesse. Toutes les questions doivent être posées. Ne vous censurez pas. Vous êtes libre. Si on réfléchit ensemble, on réfléchit sans tabou. Donc il n'y a pas une ligne qui serait la ligne France Inter ou la ligne je sais pas quoi des clichés journalistiques. C'est les auditeurs qui avaient la main, donc c'est les auditeurs qui posaient les questions.
Alors justement, à propos des auditeurs, il y a Jean qui nous écrit « Heureusement, Demorand a prévu des interventions d'auditeurs, donc il parle du téléphone sonne. Mais comment s'effectue leur sélection ?»
Sur 1500, c'est très dur, techniquement. Non, mais voilà, mais je dirais même techniquement, c'est-à-dire que vous avez un écran d'ordinateur, vous en avez plusieurs en l'occurrence, et vous avez des pages et des pages et des pages et des pages de questions qui défilent. Donc c'est très difficile déjà d'avoir une vision panoramique de l'ensemble des questions qui se posent. Ensuite, on essaye de faire avancer le débat. Quand des sujets ont été beaucoup traités dans la première heure, on va essayer de spécifier d'autres angles dans la deuxième, et ainsi de suite, même s'il y avait des interrogations récurrentes sur les 3 heures, et on s'est répété nécessairement parce que les gens entraient dans ce téléphone sonne de 3 heures, les uns à 18, les autres à 19, et les derniers à 20h40. 1h45.
Donc un bon marathon. Alors il y a aussi tous ces auditeurs qui ont apprécié le périple d'Olivier Poujade, puis de Philippe Randé en compagnie de réfugiés syriens. Alors avec nous, Jean-Marc Four, donc le directeur de la rédaction de France Inter. On va rester dans les coulisses. Est-ce que c'est finalement la photo du petit Elan qui a suscité tous ces reportages?
Non, absolument pas, puisque si vous regardez la chronologie des faits, en réalité, on décide d'aller sur la route des migrants et il y a plus de 2 semaines. C'était en milieu de semaine, il y a donc plus de 15 jours, où on diagnostique, on n'a pas besoin d'être très malin en même temps, que le sujet, ça n'est pas d'être dans un endroit fixe, comme par exemple Lesbos où on était allé, mais bien de suivre cette route qui est en train de se créer à travers, travers les Balkans et ensuite de remonter vers l'Allemagne, etc. Donc on décide d'envoyer, ça, c'est une conférence de prévision hebdomadaire, comme on dit, où on décide d'envoyer un reporter sur la route, donc qui parte de Macédoine, donc c'était il y a 2 semaines, Olivier Poujade, jusqu'à la Hongrie, et d'enchaîner la semaine suivante, donc c'est la semaine qui vient de s'achever, en les reprenant, si je puis dire, à la frontière Autriche-Hongrie, pour remonter à travers l'Allemagne jusqu'aux pays scandinaves. Donc
non,
c'est bien antérieur à la photo d'Aylan, en réalité.
Voilà, et comment ça se passe aussi sur place, en fait?
Alors c'est très compliqué, il faut saluer le travail des reporters dans ces conditions, parce que c'est une des choses les plus dures à faire. C'est toujours difficile, un travail de reporter sur le terrain, c'est exaltant mais difficile. Mais quand en plus vous êtes en mouvement, quand vous êtes on the road, quand vous êtes sur la route, même si vous avez avec vous un technicien de reportage qui vous aide et qui est extrêmement précieux et même indispensable, il en reste pas moins que trouver les sujets, les clients, interviewer les gens, repérer les sujets et en même temps diffuser tout en se déplaçant au rythme des migrants avec leurs propres moyens de transport, parce que c'est ça l'idée, c'est pas d'être à côté.
Oui. Voilà. Et puis ça pose une autre question, Jean-Marc, aussi, c'est que tous ces réfugiés arrivent d'un pays où aujourd'hui les journalistes ne peuvent plus aller.
Ah ben ça, c'est l'autre sujet, évidemment. Mmh. C'est mission impossible aujourd'hui d'aller en Syrie. On y a pour ainsi dire, oui, renoncé.
Enfin, donc, être là à leur arrivée, les accueillir, les accompagner sur la route, c'est une chose, mais être là au moment où ils décident de partir et pourquoi ils fuient, après, là, on ne peut plus couvrir journalistiquement.
Non, on ne peut plus. Aujourd'hui, on ne peut plus. Faut être clair, on ne peut plus. En revanche, on a des reporters qui les connaissent, ces situations. C'est-à-dire qu'on fait appel à des reporters qui sont allés en Syrie, par exemple, il y a ces dernières années. Donc, ils ne sont pas en terrain inconnu non plus.
Alors, il y a quand même aussi Julie qui nous dit, il y en a marre de tous ces reportages sur les manifestations de joie, l'arrivée des migrants. Ou Mickaël qui affirme, stop à la manipulation de masse par les médias. Je ne connais personne qui a envie de les accueillir. Alors, l'information serait-elle déséquilibrée, Jean-Marc?
Alors, moi, je connais des gens qui sont prêts à les accueillir. Hein,
moi aussi.
Mais en revanche, la question soulevée est pertinente. C'est-à-dire qu'effectivement...
Il n'y a pas une forme d'unanimisme,
oui,
justement.
Il y a un risque de discours, de bien-pensance, quoi, pour faire simple, qui nous guette de la même façon qu'on l'a connu dans une autre forme, mais toute chose égale par ailleurs au moment de Je suis Charlie. Je veux dire, on a bien vu qu'à un moment donné, on ne reflétait pas la diversité des pensées en France sur le sujet, qui n'était d'ailleurs pas, c'était pas juste Je suis Charlie ou Je ne suis pas Charlie. Vous aviez tout le curseur. Bon, ben là, c'est pareil, en réalité. Et il faut effectivement qu'on se pose cette question-là, passer le premier réflexe qui est une forme d'élan d'humanisme et de bien-pensance, il faut effectivement parvenir à refléter la diversité des points de vue.
Merci beaucoup Bruno Denas. Continuez de lui envoyer vos remarques, vos questions, vos messages et nous les relayerons ici dans l'Instant M où vous reviendrez régulièrement. Alors pour continuer le débat, si vous habitez la région parisienne, le musée de l'immigration organise demain 12 heures de débat, de lecture, des témoignages pour changer votre regard sur les migrations. C'est au Palais de la Porte Dorée. Je vous donne un petit truc, si vous n'avez personne pour garder les gamins, et venez avec vos enfants parce que au sous-sol il y a un aquarium avec des crocodiles, c'est formidable.
Ils vont se faire manger.
Ils vont adorer. Alors on a un gagnant de notre jeu concours du vendredi, c'est Guillaume qui a reconnu évidemment Marc-Olivier Fogiel. Tout le monde l'avait reconnu sur le plateau également. Voilà, je remercie toute mon équipe de m'avoir accompagné cette semaine, Marie-Christine Thomas, Élodie Piel, Caroline Rousseau et Redouane Tella. Et je laisse la place à Bruno Duvic, Un jour en France, où en partons?
Est-ce que vous mettriez votre enfant au rugby? C'est la question du jour. On parle des valeurs du rugby, mais à l'heure où le rugby pro ressemble un peu plus au foot que naguère, est-ce que ces valeurs sont toujours là sur les terrains amateurs et pour les gamins? 01 45 24 7000 et Philippe Vandel.
Je m'adresse aux auditeurs qui, inutile d'écrire au médiateur pour Sonia qui a dit un jour en France où on partons. Oui, c'est une erreur. C'est parti comme ça,
n'y est
pour rien.
C'est la fin.
C'est le direct.
Et on est
inutile d'écrire.
C'est le plaquage final.